Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Sur les ondes de Radio Diwa, je retrouve Pierre, que vous avez l'habitude de retrouver avec moi maintenant de manière presque hebdomadaire dans la rubrique interview. Pierre qui a passé la porte du 101.7 à Luc pour venir nous proposer des émissions sur des thématiques, des personnalités. Là, on a passé plusieurs épisodes à parler de Pierre Rabhi. Et aujourd'hui, tu viens pour avec une autre thématique. La naissance, un enjeu de civilisation, et cet épisode, tu voulais le consacrer en tant qu'hommage à une personnalité qui est nommée Michel Audan. Bonjour à toi déjà.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Hommage à Michel Audan, sachant que Michel Audan est toujours vivant, Dieu le préserve, qu'il a, je pense, il a dépassé largement les 90 années. Et pour le présenter dans un premier temps, Michel Audan est connu surtout pour la création de la maternité de l'hôpital public de Pithiviers dans les années 70 et 80, avec un concept qu'il a fait connaître qui est, on va l'appeler très sommairement, l'accouchement dans l'eau. C'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas que l'accouchement dans l'eau, c'est la prise de conscience de l'importance de l'eau dans tout le cycle périnatal de la maman, de la future maman, donc de la grossesse, avec évidemment cette capacité que chacun, chacune connaît de l'eau, son pouvoir décontractant.
Purificateur.
Purificateur. Plein de rituels et de cérémonies interviennent dans plusieurs cultures, plusieurs civilisations, à partir de l'eau, les ablutions, le baptême chez nous, chez les chrétiens. Donc l'eau, c'est l'élément par excellence de la vie. C'est là où on sait que la vie vient. Donc, les origines de la vie viennent du milieu aquatique.
Et puis, on n'est pas vraiment capable de survivre sans l'eau aussi, et nous, en tant qu'individus.
Voilà, nous sommes composés, grosso modo, à 3/4 d'eau, ce qui fait une quantité. Et avec la particularité que l'eau de notre corps a la même composition chimique que l'eau marine. Donc, ce qui a permis à Michel Audan d'avancer dans des recherches sur cette proximité de l'homme et de l'eau, de la vie et de l'eau, mais notamment de l'homme. Et il va jusqu'à dire, il a fait un bouquin, un très très beau bouquin que je vous recommande, qui s'appelle « Homo et la planète océan », Homo pour Homo sapiens, pour l'homme, où il met un petit peu en exergue et en évidence le fait que l'homme, depuis les débuts de l'humanité, aurait été davantage un habitant des côtes que des intérieurs de la Terre, que des intérieurs des continents. L'homme s'est répandu partout, les humains sont répandus partout, mais pour lui, il y a un élément de complicité très fort avec l'eau et avec la faune et la flore marine. Et où il va jusqu'à dire que ce fameux interstice qu'on a entre le pouce et l'index, ça descend de la palme, ni plus ni moins, que si l'homme est né, le seul mammifère avec un, je crois que le singe rhésus d'Asie, qui est nu, qui n'a pas de pelage, bah c'est une particularité avec le monde marin, avec les animaux marins, notamment les cétacés. Et tout comme dans les années 80, on a eu cette très belle approche de Homo Delphinus de Jacques Mayol, qui a donné le film Le Grand Bleu, film culte. Et donc cette recherche de la proximité de l'homme et du monde marin, pour Michel Audan, elle est fondamentale. Il pense très sérieusement, en ayant fait des études interdisciplinaires, que la proximité du milieu marin et de l'homme participe aux origines de l'homme. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas neutre, c'est pas rien. Il a une approche scientifique qui est très intéressante. C'est l'un des rares scientifiques. Il est chirurgien obstétricien à l'origine, mais c'est l'un des rares scientifiques qui se penche sur la question de l'interdisciplinarité au niveau des pratiques scientifiques. Et pour lui, c'est l'avenir. On ne peut plus rester cloisonné, cloîtré dans des spécialités de plus en plus hyper spécialisé. Pour lui, l'ouverture, c'est vraiment l'interdisciplinarité des généticiens, des biologistes, des virologues, des paléontologues. Enfin, ça va autant des sciences dures que des sciences dites humaines ou sociales. Hein. Ça, c'est un mélange. Et ça, moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant comme ouverture.
Avant de continuer sur les ouvertures qu'il peut proposer et les idées qu'il peut avoir, est-ce que, comme il est encore vivant, tout comme Pierre Rabhi, tu as eu l'occasion de le rencontrer? Et aussi, pourquoi avoir fait le choix d'en parler aujourd'hui au micro de la radio?
Alors, j'ai rencontré Michel Audin l'année qui a suivi la naissance de ma fille. Je ferai un petit aparté anecdote sur la naissance de mes deux enfants qui sont nés avec cette influence de Michel Audin, avec l'approche qu'il a de la naissance. Et ma fille, en l'occurrence, était dans les bras de sa maman quand j'ai fait une interview avec Michel Audin pour Radio Alto en Savoie, donc pour Pierre Rabhi. Et on a passé un moment vraiment formidable. J'ai été aussi touché par l'homme, tout comme par Pierre Rabhi, par son humanité. C'est un homme de cœur. Quoi. On sent que toute son implication scientifique relève d'abord d'une humanité et d'un humanisme vraiment profond. Ça m'a beaucoup touché. Ensuite, on a assisté à une de ses conférences et mon ex-compagne et nouvelle amie, la maman de nos enfants, a suivi un stage de formation de doula avec lui. Doula, c'est accompagnatrice à la naissance, où j'étais avec elle et j'ai pu le rencontrer. Donc voilà, en fait, si j'en parle, c'est tout comme Pierre Rabhi, parce que j'étais vraiment touché par l'homme et que ce sont des personnes qui ont une telle humanité que cette humanité-là, il faut la mettre en avant aujourd'hui. Parce que si on parle beaucoup d'effondrement, biodiversité, ressources, etc. Pour moi, il y a un effondrement majeur aujourd'hui, qui est à l'origine d'ailleurs des autres effondrements du collapse dont on parle beaucoup, c'est l'effondrement de notre humanité en tant que vertu. Tant que vertu, capacité d'aimer. Humanité, c'est capacité d'aimer. Et Pierre Rabhi, oui, et Michel Audin se sont beaucoup penchés sur cette question. Et comme par hasard, ils ont une approche au niveau de notre humanité qui fait une place privilégiée au féminin. Je dis comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard. Donc ça aussi, ce côté-là m'avait beaucoup touché. Donc, en gros, voilà ma rencontre avec Michel Audin et surtout les conséquences de ma rencontre et de la rencontre de la maman sur la naissance de mes enfants, dont on parlera tout à l'heure peut-être.
Ouais. Mais tu t'es intéressé déjà à son travail avant de le rencontrer?
Oui. Je m'intéressais à son travail à peu près en même temps, d'ailleurs, que je m'intéressais au travail de Pierre Rabhi. Alors, c'est très curieux parce que j'ai regardé la bibliographie de Michel Audin il y a quelques jours, en préparant plus ou moins l'émission. Et je me suis rendu compte qu'il avait sorti un bouquin qui est un bouquin formidable. On parlera peut-être en fin d'émission des bouquins que je peux recommander. Il y en a trois. Un bouquin formidable qui s'appelle « Le fermier et l'accoucheur ». Et en fait, le fermier, pour moi, c'était Pierre Rabhi. L'image du fermier, la terre. Et l'accoucheur, c'était Michel Audin. Et comme par hasard, ce sont les deux personnes qui m'ont vraiment fondamentalement touché dans ma vie, avec le maître de Tai Chi que j'ai suivi pour ma formation d'enseignant Tai Chi Qigong. Donc voilà. Ces deux personnes, plus le maître de Tai Chi, ont la particularité d'être des gens qui interviennent, qui sont impliqués vraiment au cœur du vivant, vraiment au cœur de la vie. La terre, la naissance.
Et justement, donc Jeanne n'est pas avec nous aujourd'hui, mais elle s'interrogeait, elle avait quelques questions aussi. Et d'après donc Michel Audin, l'homme doit se demander comment se développe le respect pour la terre-mère. Déjà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça fait aussi partie, justement, pour toi, comme tu dis, des enjeux d'aujourd'hui faire passer ces messages-là?
Le respect de la terre-mère, c'est même incroyable qu'on se pose la question aujourd'hui de savoir si on doit respecter la terre-mère. C'est plus qu'une évidence. Je m'intéresse beaucoup à l'anthropologie, à l'histoire. Et j'ai constaté que les peuples qui vivaient, les ethnies, les cultures qui vivaient en équilibre, en harmonie avec leur milieu ambiant, avaient essentiellement dans leur cosmogonie, leur cosmologie, des rituels, des cérémonies destinées à la terre-mère, qu'ils considèrent vraiment comme une mère. À partir du moment où elle est nourricière, déjà, sans la terre, on ne se nourrit pas, mais aussi avec l'aspect du lieu, on pourrait dire de la planète, même si certains peuples n'ont pas la notion planétaire de la terre, elle a quand même pour eux une émanation très très profonde. Alors c'est des peuples, je parle de peuples qui sont des peuples autochtones, des peuples premiers, qui n'ont pas développé, on en parlera tout à l'heure, sur les conditions de la naissance, qui n'ont pas développé un énorme néocortex, le nouveau cerveau de l'homme civilisé. L'amour pour la terre-mère, j'en avais parlé, je crois, dans une émission que j'avais faite il y a quelques années sur le Tao avec Radio Diwa. L'amour pour la terre-mère, c'est notre humanité, la vie vient de la terre-mère. On ne doit jamais couper ce cordon ombilical avec elle. Quand on naît, on attend une certaine période pour couper le cordon, il ne faut pas le couper tout de suite. On verra ça tout à l'heure. On coupe le cordon, on est en contact avec elle, elle nous nourrit, elle a la phase d'allaitement, etc. Ce cordon, on peut le couper et on doit le couper, sinon on n'est pas autonome de la maman. Par contre, le cordon ombilical, qui est un lien vraiment profond, alors évidemment, il n'est pas matériel. Enfin, si, il est matériel, puisqu'elle nous nourrit. Donc, il y a les aliments, il y a l'air, il y a tout un tas d'éléments qui font qu'on est en permanence en contact avec elle. Le danger et le gros risque qu'a pris notre civilisation, c'est qu'elle a coupé le cordon avec la terre-mère. Et comme je le disais tout à l'heure, les peuples qui, eux, ont gardé un équilibre avec leur milieu naturel, n'ont pas coupé le cordon à travers des rituels, des cérémonies et un respect. Et le sacré, le sens du sacré pour la terre-mère. Les origines de l'humanité, ça nous concerne tous, toutes les cultures. Ça a été une vénération pour la fertilité et la fécondité. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, le sacré est né. Les premiers rituels, les premières cérémonies, les premières religions non monothéistes. Je ne parle pas des trois religions monothéistes, mais les premières religions qui avaient des divinités différentes. La divinité principale, c'était la terre-mère, où on associait la mère, sa fécondité, à la terre, la fertilité. C'était indissociable. Ça, c'est le début de l'humanité. Et à mon avis, je crois, et pas que mon avis, beaucoup de chercheurs et de gens qui s'occupent de sciences humaines comme Michel Audan considèrent que c'est une grossière erreur, enfin une erreur qui nous coûte cher et qui risque de nous coûter très cher, d'avoir coupé cette relation sacrée avec la terre-mère. Gaïa, Pachamama, il y a plein de noms dans plein de cultures qui portent cette vénération rien que dans le mot.
Et aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui nous reste comme levier pour sensibiliser la population à ces faits-là, à cette importance-là, justement de se reconnecter à la nature, de dire aux gens, prends le temps vraiment d'être mettre 5 minutes dans l'herbe et de juste conscientiser que la terre et toi, vous êtes ensemble. Enfin, ça paraît aujourd'hui pour beaucoup très anodin comme chose ou très puéril ou innocent.
En fait, ce que je peux conseiller aux gens, c'est justement le sujet de notre émission, c'est de se renseigner sur des phénomènes aussi naturels que sont la naissance. Quelle alimentation, quelle relation avec le vivant. Hein. Mais si j'insiste sur la notion de naissance et de tout ce qu'a développé Michel Audan, c'est parce qu'en fait, l'issue, elle est là. L'issue, elle est de retrouver ce lien fondamentalement naturel, sans intervention industrielle, chimique, physique. Quand je dis physique et physique-chimie, tout ce que notre culture industrielle a apporté depuis 2 siècles, en fait, nous éloigne du vivant. Ça, c'est un constat. Il n'y a pas de critique à porter, il y a encore moins de jugement. Et le danger, il est juste là. Et quand on voit l'approche qu'a Michel Audan sur la naissance, on comprend très bien, et on sent très bien, et c'est même touchant, émouvant, que ce lien au vivant, il est fondamental. Et si on le perd, je pense qu'on peut tirer un trait sur l'humanité. Je ne dis même pas sur notre civilisation, notre culture. Je dis sur une autre humanité, puisqu'aujourd'hui, elle est globalisée. Hein, il y a une mondialisation économique planétaire et les modes de vie se globalisent. Et si on ne change pas la trajectoire, je ne dis même pas inverser la direction, mais si on ne change pas la trajectoire, bon, point de suspension.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Comme il est obstétricien mais aussi auteur et que là tu conseillais aussi de s'intéresser justement à des personnes et des idées comme ça, est-ce qu'il y a un de ces livres, toi, qui t'a marqué plus qu'un autre et que tu voudrais aussi conseiller aux auditrices, auditeurs?
Oui. Je voulais en conseiller trois en fin d'émission, mais je peux en conseiller un qui est pour moi basique. C'est La santé primale, c'est l'un de ses premiers. Mais j'en rajouterai forcément un deuxième qui s'appelle L'amour scientifié. Ça fait froncer les sourcils, L'amour scientifié, on va en parler. Et Le fermier et l'accoucheur. Dans ces trois livres, on a un aperçu relativement exhaustif, même s'il a détaillé plusieurs autres aspects de tout ce qui concerne l'évolution de l'humanité, de l'humain. Mais dans ces trois livres, on a vraiment l'essentiel. Il y a un petit coup de cœur aussi pour L'amour scientifié, parce qu'à la fin, il décrit la naissance du Christ à sa manière, comment Jésus est né, selon les principes et les préceptes d'une naissance naturelle. On parle de naissance naturelle en parlant aussi de naissance physiologique, c'est-à-dire en laissant s'exprimer tout le potentiel que la vie nous a donné et a donné à la femme pour la naissance. Et sa grande idée à Michel Audan, c'est « nous n'avons absolument pas à intervenir sur le phénomène naissance, le phénomène physiologique. Moins on intervient, plus les choses se passent bien. Et plus on intervient, surtout avec la médicalisation et l'industrialisation de la naissance, et l'on en parlera tout à l'heure obligatoirement, pour constater les dégâts, n'ayons pas peur des mots, mais les dégâts au niveau humain de nos personnalités, de ce que ça implique au niveau influence dans notre vie, dans tout notre parcours le long de l'existence, qui fait que si c'est mal parti au départ, un enfant de 6 ans peut le comprendre, il est clair que le chemin va être rude.
Alors on parle de naissance naturelle et de naissance du coup aujourd'hui un petit peu plus médicalisée. Est-ce qu'on peut donner du coup, moi tu vois spontanément en naissance naturelle, dans les exemples que j'ai notamment donc le fait d'accoucher dans l'eau, de par soi-même et surtout dans une position qui est totalement différente que celle dans laquelle on positionne la femme maintenant pour les accouchements. Est-ce qu'on parle de ça, justement, de différentes positions ou de différents soins qui ne sont a priori de base pas forcément les bons?
Oui. Alors, ce qui est assez hallucinant, c'est de se rendre compte qu'on appartient à une civilisation dite développée, où la science est en pointe et qu'on a perdu un principe majeur qui existe sur la Terre, qui est simplement celui de la pesanteur. De là, plus loin, pesanteur. C'est-à-dire que voir une femme allongée sur un lit d'accouchement avec les pieds dans les étriers, et qu'on sait ce qu'est la pesanteur, on voit tout de suite qu'il y a un problème par rapport à la sortie, à la naissance, à l'éjection du fœtus. Moi, quand j'ai vu les films, quand j'ai commencé à m'intéresser à Michel Audan dans les années 80, et j'ai vu les documentaires sur la naissance, mais j'étais juste, ça m'a sauté aux yeux tout de suite. Enfin, je veux dire, ça m'a tout de suite frappé. En plus, j'avais lu à cette époque-là un livre de Maupassant qui s'appelle Une vie, qui raconte l'histoire d'une servante qui accouche en plein service, quand elle était au service de ses maîtres, et qui accouche en s'accrochant à un lit en métal, à deux mains, jambes écartées, et qui accouche accroupie, c'est-à-dire en permettant la pesanteur de faire son boulot, hein, puisque la pesanteur intervient dans le travail d'une femme qui accouche. Et là, je me dis qu'on a vraiment fait fausse route sur des principes en plus qui me touchent, mais presque douloureusement, dans le sens où on occulte complètement le potentiel de la femme dans la période d'accouchement. C'est-à-dire qu'on a pris en charge, on prend en charge des femmes qui sont des assistées au niveau médical et naissance industrielle, qu'on fait rentrer dans des hôpitaux. Qu'est-ce qu'un hôpital ? C'est un lieu où on soigne les gens. Donc dans l'inconscient de la femme qui va accoucher, forcément, je ne suis pas une femme, mais j'en ai parlé avec pas mal d'amis et de copines et qui me l'ont dit, oui, quelque part ça nous touche, le fait de savoir qu'on va à l'hôpital pour accoucher, sans s'en rendre compte, même certains en ont conscience, on est dans le statut de malade. Donc déjà, ça, il y a un problème. Ne serait-ce qu'au niveau de l'état d'être profond de la femme qui va accoucher. En plus, quand on rentre dans un hôpital, qui est un monde par excellence hors sol, hyper industrialisé, avec des monitorings, des machines partout. Il y a des machines sophistiquées hein, qui ont été très très bien conçues. Hein. Sauf que là, sur l'emploi de ces machines pour un phénomène naturel qui doit être simplement physiologique, comme ça l'a été à travers l'histoire de l'humanité et dans plusieurs cultures encore aujourd'hui, qu'on voit cet arsenal, et je pèse mes mots, je ne dis pas attirail, je dis arsenal, parce que c'est presque une contrainte.
Du coup, ce serait intéressant, justement, moi, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec des femmes, mais du coup, il faudrait comparer deux époques différentes, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas des choses qui permettent une douleur moindre pendant ces moments-là ? Le fait de l'évolution médicale.
Alors, l'hôpital, la maternité de l'hôpital public de Pithiviers a montré un modèle de ce que peut être une hospitalisation humaine. Humaine, c'est ce mot qui compte. Dans la mesure où il y avait des petites salles, c'était un peu ce qui est devenu les maisons de naissance après, dans les décennies qui ont suivi. Les maisons de naissance étaient des lieux rassurants pour les femmes qui allaient accoucher, parce qu'il y a une prise en charge, alors qu'une naissance, un accouchement naturel, il n'y a pas besoin de prise en charge. Il y a plusieurs peuples que j'ai étudiés dans le monde où la femme se retire pour aller accoucher, notamment dans le Kalahari, les Bushman ou certains peuples pygmées, les femmes se retirent, vont faire un petit lit de feuilles ou de végétation dans un coin, à l'abri des regards, des bruits et un endroit rassurant qu'elles connaissent, et elles accouchent seules. Les témoignages relatent que ça se passe très bien. Bien sûr que c'est important quand le grain de sable commence à rentrer dans la machine, bon, c'est pas une très belle image, qu'il y ait une assistance pour aider les femmes qui ont un problème, et des problèmes sérieux parfois, à accoucher. Ça, c'est une évidence. Mais que ça devienne systématique et qu'on en arrive aujourd'hui dans les pays développés et industrialisés à ce que les femmes, dès qu'elles savent qu'elles sont enceintes, commandent leur césarienne, comme ma coiffeuse quand j'étais en Savoie, qui avait commandé sa césarienne pour avoir un maxi, parce que ça allait, son accouchement était prévu en décembre, c'était la période des fêtes, c'est là où elle tourne le plus, où elle travaille le plus, et elle avait prévu une césarienne pour déclencher. C'est juste une aberration, en fait. C'est juste une aberration qui va à l'encontre même de la vie, je veux dire. C'est grave. Enfin, pour moi, c'est grave à ce point-là. C'est que ça va à l'encontre même de la vie. On met au monde une créature, un enfant. En plus, c'était son enfant. Elle aime son enfant. Après, je l'ai vu. Elle l'aime. Mais l'amour commence tout au départ, dès qu'elle sait qu'elle porte la vie. Alors moi, je parle en tant que mec qui est touché à ça parce que j'ai vécu certaines situations qui me permettent d'en parler. Je n'ai pas de leçons à donner, ni de conseils à donner aux femmes. Simplement pour tirer certaines sonnettes d'alarme qui nous font dire que, comme Michel Ledan l'a très très bien établi, et par un vécu de professionnel de la santé et de l'accouchement, et de l'obstétrie, que si on ne respecte pas des processus qui sont établis depuis l'origine de l'humanité et de la vie et des mammifères et du vivant. Mais quelle prétention on a à pouvoir assurer une descendance et une civilisation qui tiennent debout. Parce que là, ni plus ni moins, si on prend connaissance de toute l'œuvre de Michel Ledan, on se rend compte que notre civilisation, elle est juste mal barrée, uniquement sur le concept de naissance, uniquement sur ce concept-là. On ne parle pas de l'alimentation industrielle, on ne parle pas de la sédentarité, on ne parle pas du monde hors sol des villes, on ne parle pas des pollutions, on parle juste de la naissance. Juste sur la naissance, notre civilisation se condamne à un avenir qui est juste douloureux, enfin je veux dire, qui n'est pas ce qu'on cherche dans la vie, à savoir le bien-être, s'aimer.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5
101.7 FM.
En parlant de s'aimer et de lien avec les autres, j'ai vu sur les questions que Jeanne avait travaillées qu'il a notamment sorti un livre qui s'appelle « La naissance à l'âge des plastiques ». Il y est dit que beaucoup d'enfants sont nés avec l'aide de du coup, l'oxytocine synthétique injectée à la mère en substitut de l'oxytocine naturelle, ce qui, à long terme, pourrait modifier notre manière de tisser des liens avec les autres.
Oui, alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'œuvre de Michel Audan, c'est justement cette humanité, cette capacité d'aimer. Cette capacité d'aimer, pour lui, c'était basique. Une espèce ne peut pas perdurer si elle est en permanence en conflit. On a passé un virage historique, on en a déjà parlé à une émission précédente sur Pierre Rabhi, au néolithique. Le néolithique est une bascule que beaucoup d'historiens, anthropologues et autres sciences humaines révèlent comme une période critique dans la mesure où il y a eu sédentarisation, domestication. L'homme, je parle du mâle, a pris conscience d'être partie prenante dans la procréation, ce qui n'était pas forcément une évidence avant. On n'y pense jamais, mais ce n'est pas depuis les débuts de l'humanité que le mâle humain savait qu'en s'accouplant avec une femelle, 9 mois après, il y avait une naissance. Il y avait des pulsions, des désirs, partagés ou pas, peu importe. Enfin, si, c'est important.
Oui, quand même.
La domestication a amené le fait de pouvoir être témoin que quand on avait domestiqué les chevaux, par exemple, qu'on mettait 2 chevaux étalons ensemble, ben voilà, il se passe rien. Qu'on mettait un étalon seul ou une jument seule, il se passait rien. Mais quand on mettait un étalon et une jument, à partir d'un certain temps de gestation, il y avait un petit. Ça, c'est pas venu du jour au lendemain, c'est venu au fil, évidemment, du temps. Mais là, il y a cette prise de conscience. Cette prise de conscience de l'homme mâle dans le processus de procréation, elle a été déterminante parce qu'en fait, il en a profité. Ah oui, je pense qu'il a pris le melon, tu vois, pour prendre une expression. Il a pris la grosse tête. Et la révolution néolithique, avec la domestication, la sédentarisation, plus cette prise de conscience de l'intervention du mâle dans la procréation, a fait basculer carrément des peuples dans le conflit, dans la mesure où pour se sédentariser, ça veut dire territoire, domestication, protéger ses animaux, ses cultures, donc première forme de police et d'armée, très, très rudimentaire hein, de l'époque. Et à partir de là, il y a eu l'installation d'un processus d'agressivité pour que les peuples survivent, en s'agressant, plus ou moins mutuellement. Et ce besoin d'agressivité, en fait, il est intervenu sur les naissances où les hommes se sont rendus compte que plus ils avaient dès le plus jeune âge, des descendants, enfin des humains, qui étaient propices à être agressifs, plus c'était une qualité pour la survie même du peuple. Donc, c'est vraiment une bascule au niveau historique, parce qu'en fait, elle a entraîné jusqu'à la naissance des changements de comportement et de mœurs. Si on prend, par exemple, dans l'Antiquité, les Spartiates de Sparte, qui étaient en permanence en conflit avec Athènes, pour éprouver un bon guerrier, l'homme, le Spartiate, prenait le nourrisson à la naissance et le jetait par terre. Celui qui survivait était jugé bon guerrier. Celui qui restait, ce n'était pas une perte. Ça allait jusque-là, je veux dire. Ça allait jusque-là. Sans parler d'autres cultures aussi, qui éprouvaient les nourrissons dès la naissance. Donc à partir de là, se sont installés des rituels dans la culture de chaque peuple pour cet instinct de survie, ce besoin de survie, par l'agressivité, par l'agression, qui fait qu'à la naissance, dès la naissance, on conditionnait le nouveau-né vers un comportement agressif, surtout un garçon. Puis est venue la prédominance du garçon sur la fille. Ça aussi, bascule. Avant, il reste encore quelques sociétés autochtones et matriarcales aujourd'hui dans le monde, où on ne fait pas la différence à la naissance entre un garçon et une fille. On voit la différence au niveau physiologique, mais ils ont tous les deux leur importance, puisque les sociétés matriarcales n'ont jamais été des sociétés de domination. Et il faut d'ailleurs rétablir cette petite perturbation au niveau du vocabulaire. Patriarcat, en face, ce n'est pas matriarcat, ce n'est pas parallèle, c'est deux fonctionnements complètement différents. Patriarcat fonctionne sur la domination, le matriarcat, où ce n'est pas le pouvoir des mères, fonctionne sur une coopération où il n'y a pas de distinction genrée à l'intérieur des tâches, ou le moins possible. Donc ça, c'est important à signaler. Donc cette bascule, elle est fondamentale.
Je pensais, parce que tu as dit matriarcat et qu'il y avait encore quelques civilisations, et moi j'avais regardé un reportage sur les éléphants, et ça fait partie des rares espèces où en fait les mères en tout cas vivent en fait toute leur vie, leur évolution ensemble, alors que les pères les laissent de côté et elles gardent les enfants aussi, et l'enfant est éduqué par toutes les mères éléphants. Et j'avais trouvé ça super surprenant déjà, parce que j'avais pas du tout idée que ça se passait comme ça, et du coup ça me ramène un petit peu
Oui, le matriarcat est intéressant dans toutes les espèces parce qu'on se rend compte d'une richesse incroyable de comportement, d'organisation sociale, dans toutes les espèces. Alors que le patriarcat, lui, il est unique. Il fonctionne que d'une seule manière, la domination du mâle sur le reste du groupe.
On peut dire un peu les meutes aussi, du coup, dans les animaux. Il y a toujours un peu ce côté-là aussi, où il y a le chef de meute qui défend son territoire, le dominant.
Oui.
Donc ça se retrouve même dans les gènes animaux, en fait.
C'est ça,
du coup.
C'est ça. Même dans les gènes animaux, cette domination se manifeste par l'agressivité, je veux dire. Ce qui n'existe absolument... Si, ça existe aussi dans des matriarcats. Il ne faut pas enlever...
D'autant les femmes peuvent être violentes
Bien sûr. D'autant plus que les femmes et les femelles ont un avantage que n'ont pas les mâles et les hommes, c'est qu'elles sont capables de sécréter de la testostérone. Il n'y a pas de mâle, on ne connaît pas d'espèce mâle dans le vivant qui sécrète des hormones de l'autre genre, de l'autre sexe. Là, les femelles, pratiquement toutes les espèces, sont capables de sécréter cette hormone. Tout ça pour dire qu'à partir du néolithique, moment clé dans l'histoire de l'humanité, le fait d'avoir ces deux grands principes, sédentarité et domestication, qui sont des moments de défendre quelque chose, donc éventuellement d'être agressé et d'agresser et donc de défendre, ça va dans les deux sens, l'homme a développé un nouveau cerveau. Ça aussi, c'est une clé dans cette époque. Le développement du néocortex commence au néolithique, puisqu'il faut gérer les stocks, il faut calculer les troupes, le contrôle sur les autres, sur les uns, l'utilisation des esclaves qui appartiennent à un peuple vaincu qu'il faut gérer. Tout ça a créé des besoins de gestion au niveau cérébral qui fait que le néocortex s'est développé et a été sans arrêt en développement jusqu'à un stade où aujourd'hui, c'est juste un monstre. Enfin, moi j'en parle comme ça, c'est le prof de Tai Chi qui parle. Le néocortex est juste monstrueux au niveau de l'activité qu'il a, en sachant que le cerveau étant déjà naturellement fortement pompeur d'énergie et d'oxygène, alors le néocortex, on n'en parle plus. C'est juste monstrueux, les déséquilibres énergétiques. Quand on voit les intellectuels qui sont, je ne vais pas dire toujours fatigués, mais qui ont besoin de se ressourcer, alors qu'on pourrait croire que ce sont les manuels ou les gens du physique qui ont besoin. Non, les gens manuels et qui travaillent, qui ont des travaux physiques, ils ne font que laisser s'exprimer leur corps, même si parfois c'est trop, bien sûr. L'esclave, c'est trop. Tout ça pour dire que cette adaptation-là qui s'est faite quand même en 10 000 ans alors que notre espèce a 1 million d'années, on va dire 1 million, c'est la maîtrise du feu. Hein. Ah, bon, ça peut être avant l'homme idée, c'est avant. Mais 1 million d'années et on a 10 000 ans de développement d'un néocortex, d'un nouveau cerveau qui n'a pas arrêté de se développer jusqu'à arriver à des aberrations aujourd'hui comme l'hyperspécialisation, on en a déjà parlé, de certaines disciplines et pratiques intellectuels, mais qui sont juste c'est encore une fois le prof de thé, des pompeuses d'énergie qui sont monstrueuses. Les intellectuels qui travaillent tout le temps, mais sont toujours fatigués, quoi. Et on ne pense jamais à l'activité cérébrale. On croit toujours que la fatigue vient de la dépense énergétique du corps.
Et je pense à se démocratiser un petit peu plus maintenant de... Enfin, pas démocratiser, mais en tout cas conscientiser que la fatigue, elle peut venir aussi beaucoup de la psychologie. Ou moi, on a déjà échangé sur le fait que des gens qui travaillent justement devant un ordinateur toute la journée, contrairement à des gens qui travaillent dans les champs dehors, et même si c'est pas du tout le même effort, la fatigue est peut-être moins ressentie chez la personne qui était en extérieur que... quelqu'un qui est resté assis, comme tu disais, c'est pas notre corps n'est pas fait pour ne pas être en mouvement en fait. Et du coup, c'est vrai que ça fait une charge psychologique et une fatigue vraiment.
Oui, c'est une fatigue perverse en plus parce qu'elle est nerveuse. Elle vient de la mobilisation de tout l'encéphale, de toute la sphère cérébrale. Et on se rend pas compte. On a l'impression, mais non, on se fatigue pas. Donc on peut rester devant un écran, devant. Mais si, en fait, il faut...
Ça décharge bien vite les batteries.
Mais oui, tous les métiers intellectuels devraient être des métiers à temps partiel. Enfin, c'est une suggestion. Même si,
mais je vois l'idée, en l'économie. Tout cas, oui, bien sûr.
Mais voilà. Donc, ce néocortex, c'est vraiment un gros problème. Et on va le voir pourquoi dans la naissance. Parce qu'il intervient quasi systématiquement dans, par exemple, l'hospitalisation, où une femme est complètement dépendante d'un milieu qui n'est pas le sien. Il faut rappeler quand même que l'hôpital, c'est un lieu de maladie nosocomiale qui porte certains germes qui ne sont pas du tout les germes de ceux de la maman à son domicile. Ça, c'est un facteur hyper important. La femme en milieu hospitalier est exposée à une nouvelle attaque microbienne, mais on parle carrément d'attaque, puisque c'est complètement nouveau. Il y a une adaptation à faire pour le nouveau-né, surtout, qui, il faut le dire, naît vierge de tout microbe quand il sort. Hein. Et là, il est dans un milieu complètement étranger, alors qu'à la maison, il est dans le milieu de sa mère, le milieu microbien de sa mère. Donc, c'est complètement différent. Ça, c'est... Michel Ledan l'a très, très bien expliqué, montré que c'était une préoccupation qui compte.
On va finir sur ça pour ce premier épisode qui concerne Michel Ledan. Et puis, tu reviens en studio avec tout ce qu'il faut pour compléter ces informations, idées.
Et éventuellement avec une intervenante qui est accompagnatrice à la naissance, qui elle a son expérience à donner concrètement pour montrer l'importance de l'approche de Michel Ledan.
Merci beaucoup.
Merci.